affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bienvenue sur Canal Académie Sauvé. Ce sobre intitulé, complété d'un point d'interrogation, ressemble à un sujet de dissertation philosophique. En terminale, les élèves auraient eu 4 heures pour plancher sur cette question, mais les membres de l'Académie des sciences morales et politiques y consacreront, eux, une année entière. Chaque semaine, ils écouteront un invité aborder ce thème sous un angle particulier, puis ils débattront, comme le veut la tradition. C'est ainsi que travaille cette compagnie pour réfléchir aux enjeux du monde d'aujourd'hui autour d'un programme proposé par son président. En 2022, cette charge a été confiée au philosophe Rémi Brague. Bonjour.
Bonjour.
Alors Rémi Brague, chaque année, le nouveau président de l'Académie des sciences morales et politiques choisit un fil rouge pour les séances de travail qui se tiennent ici tous les lundis. En 2020, André Vacheron avait proposé de parler de santé et de société après cette année Covid. En 2020, Pierre Delvolvé avait retenu le pouvoir. En 2019, Georges-Henri Soutou avait creusé l'action extérieure de la France. Voici venu votre tour et vous avez choisi un thème qui peut sembler étonnant, sauver. Comment vous est venue cette idée ?
D'abord un petit peu en fonction de mon métier, si je puis dire. André Vacheron, qui est un grand patron de médecine, cardiologue, a choisi un sujet qui est tout à fait dans ses cordes. Pierre Delvolvé, qui est juriste, a choisi là aussi ce qui est de son domaine. Georges-Henri Soutou, qui est un grand spécialiste des relations internationales au XXe siècle, avait choisi quelque chose qui actualise son domaine de compétence, puisqu'il est historien, il s'intéressait surtout donc à l'histoire du XXe siècle. Eh bien, il a mis un pied, si je puis dire, dans le XXIe siècle, dans l'actualité. Alors, en ce qui me concerne, étant philosophe, je me suis demandé si quelque chose comme la notion de salut pouvait avoir encore un sens pour nous. Alors j'ai préféré cependant, plutôt que le mot « salut » qui aurait eu le danger de restreindre la question à l'aspect religieux du terme, puisqu'on pense tout de suite à des religions de salut, des choses comme ça, le salut de l'âme, etc. Donc j'ai préféré ouvrir la question en mettant comme titre d'abord un verbe à l'infinitif et puis un point d'interrogation. Enfin, le philosophe est toujours quelqu'un qui se pose des questions. Le point d'interrogation est sa ponctuation favorite. Et donc, je voudrais que l'on se demande, y a-t-il encore quelque chose à sauver ? Si oui, quoi ? Et si oui, comment ? Quelles sont les médications à apporter à ce dont on peut penser que cela mérite d'être sauvé ? Ce qui fait que, d'une certaine manière, je me situe dans le droit fil de celui dont j'ai été le vice-président, à savoir le professeur André Vacheron, qui a choisi comme thème donc la santé. Santé, salut, les deux mots sont apparentés, ne serait-ce que par l'adjectif salubre, la salubrité, des choses de ce genre-là. Donc je conçois cette année comme étant un petit peu dans le prolongement de la sienne.
Alors vous avez parlé de cette importance du religieux qui reste très présent dans cette notion de salut ou de sauver si nous utilisons le verbe. Les deux premières séances seront d'ailleurs autour de cette question. Qu'est-ce qu'une religion de salut par exemple ? Ou la conception chrétienne du salut ? Est-ce que cette idée religieuse reste finalement toujours en arrière-fond de ce verbe sauver, même quand on va parler de la politique, de l'écologie? Est-ce que c'est le modèle religieux qui est toujours transposé d'une certaine façon?
Alors, le fait que les deux premières séances soient consacrées à l'aspect religieux de la notion de salut est d'une certaine manière accidentelle. J'aurais voulu organiser l'année selon un ordre logique. Par exemple, se demander que voulait dire la notion de salut d'une manière générale. Mais simplement, l'ordre logique est une chose et les disponibilités des orateurs en sont une autre tout à fait différente. Bon, il se trouve que mon premier orateur, Guy Strumza, qui est un vieil ami, et qui a été d'abord professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, puis a terminé sa carrière en enseignant à l'Université d'Oxford, bon, habite en Israël. Et il se déplace, pas toujours, vers la France. Donc, bien, la seule date possible était la première. Bon, je suis assez content de faire commencer les choses par un vieil et cher ami, mais bon, ça ne correspond pas toujours à ce que j'aurais pu souhaiter et qui d'ailleurs sera concrétisé dans le volume collectif qui doit sortir de ces conférences. Là, il faudra remettre tout cela dans un ordre plus logique, sans tenir compte de la succession chronologique des conférences. Mais l'aspect religieux apparaîtra sous différentes formes, et pas nécessairement en ce qui concerne les religions reconnues comme telles, si je puis dire. Un orateur, enfin une oratrice en l'occurrence, se demandera, par exemple, comment il se fait qu'on éprouve souvent le besoin d'exprimer en termes religieux ce qui est en fait de l'ordre du politique, enfin ce qui relève de l'ordre du politique. Il n'est pas de sauveur suprême, décrétons le salut commun, chante l'international. C'est assez curieux quand même que, après avoir révoqué un dieu mis d'ailleurs sur le même plan que le César ou le tribun, on garde la notion quand même fortement connotée religieusement de salut pour décrire la manière dont le prolétariat doit prendre son destin en main et se sauver lui-même. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, n'est-ce pas ? Bien. Par ailleurs, des auteurs que l'on n'attendrait pas sur ce sujet, on dit des choses bizarres, je pense en particulier.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, Martin Heidegger, qui, dans un entretien célèbre accordé à Der Spiegel, en 73, je crois, hein, mais je ne voudrais pas dire une bêtise quant à la date, a eu cette phrase « Seul un Dieu peut nous sauver ». Alors, étant donné que Heidegger s'était débarrassé dans sa jeunesse du catholicisme originel de son père sacristain, de son enfance d'enfant de cœur, etc., on peut se demander à quel dieu il pensait. Alors, bon, ben, nous allons demander à quelqu'un qui connaît très bien non seulement l'œuvre de Heidegger, mais tout le contexte allemand, toute cette tentation germanique récurrente de créer une nouvelle religion. Bon. Nous allons lui demander de nous éclairer à ce sujet. Mais ma question directrice reste quand même, qu'y a-t-il à sauver ? Si oui, quoi ? Et si oui, comment ? Alors je suis parti, pour ne rien vous cacher, d'une question qui m'était un peu dictée par un tempérament un peu pessimiste qui est le mien. Il y a des gens qui voient les choses à travers des lunettes roses, mes lunettes sont grises. Alors je le sais, je sais que c'est cette fameuse équation personnelle dont les astronomes doivent devenir conscients et dont ils doivent essayer, non pas de se débarrasser, ça n'est pas possible, mais ils doivent corriger leurs équations en tenant compte de cette erreur typique, si je puis dire, qu'ils font. Donc j'ai essayé, mais Je me suis vu rappelé à l'ordre par M. Zemmour, très récemment, qui a, dans cette déclaration de candidature aux accents quelque peu gaulliens, a dit « il n'est plus question de réformer la France, mais il faut la sauver ». Alors c'est amusant de voir comment des gens dont on peut penser ce que l'on veut considèrent que quelque chose comme l'identité française, j'élargirais en ce qui me concerne l'identité occidentale, éventuellement la planète, n'est-ce pas ? Tout cela est menacé et doit donc être sauvé. Alors par quelle stratégie, comment distinguer l'essentiel qu'il faut sauver de l'accessoire que l'on pourra peut-être laisser tomber ou fortement modifier, voire réformer ? Bon, ben, ce sont des questions qui m'ont agité dès le début. Je voudrais...
C'était votre point de départ, en réalité.
C'était mon point de départ, mais comme son nom l'indique, un point de départ n'est qu'un point de départ. Hein. On peut en partir à tous les sens du mot. On en part au sens où l'on s'oriente à partir de lui, mais aussi où on le quitte. Et j'ai voulu éviter à tout prix, disons, une longue lamentation sur le thème « Tout fout le camp »,« Nous sommes foutus », enfin, vous excuserez la grossièreté de mon propos, mais enfin, c'est ce que l'on entend dans la bouche de nos contemporains. Donc, ne pas prolonger une année sur la santé par une année hôpital, si je puis dire. Bon. Surtout que lorsqu'il est question de ce que l'on pourrait éventuellement sauver, on se demande aussi en quoi les choses qui sont à sauver, qui sont peut-être à sauver, pourraient-elles s'avérer elles-mêmes salutaires, pourraient nous sauver elles-mêmes. Un exemple, est-ce qu'il faut sauver l'art ? Eh bien, il est amusant de voir que, à partir en gros du XIXe siècle, mais avec des précurseurs auparavant, on a vu apparaître une sorte de religion de l'art. L'art étant quelque chose qui pourrait nous sauver. Alors, il y a beaucoup de cela chez le philosophe allemand Schopenhauer, par exemple. Bon. Mais il y a beaucoup de ça chez un certain esthétisme. Surtout anglais d'ailleurs, voulant faire une religion de la beauté. Alors il y a des choses comme ça chez Oscar Wilde, première manière. Bon, puis il y a aussi cette fameuse phrase que on attribue au prince Mushkin dans l'Idiot de Dostoïevski. La beauté sauvera le monde, mir spasiot krasata. Bon, c'est bien gentil, mais d'abord, ça n'est pas le prince Mishkin qui dit ça, c'est Hippolyte Terentiev qui rapporte ce qu'aurait dit le prince Mushkin. Et Hippolyte Terentiev, jeune positiviste, évidemment athée, peut-être pas extrêmement malin, interprète ça en disant simplement bon, c'est qu'il est amoureux, il voit tout en rose, une belle femme pour lui, c'est l'aurore du salut. Bon. Alors il faut se demander pourquoi on a fait de cette phrase qui n'est même pas reprise par le prince Mishkin. Bon, ça a été pris comme parole d'évangile par des gens qui cèdent à la tentation récurrente de considérer Dostoïevski comme un père de l'Église. Bon, ce qu'il n'a jamais été, peut-être aurait-il le souhaité l'être, mais enfin, ça n'a pas été le cas. Donc vous voyez, il y a tout un complexe d'idées qui se renversent. Enfin, ce qui doit être sauvé pourrait-il être aussi ce qui pourrait nous sauver ? Alors bon, ben, beaucoup d'exposés devront s'interroger sur cette réversibilité de la notion de salut et de ce qui pourrait s'avérer salutaire.
Par exemple, vous allez parler d'écologie avec une intervention intitulée « Sauver la planète ».
Oui.
Dans ce domaine-là, la terminologie du salut est extrêmement présente.
Elle est très présente et elle sert probablement, disons, à motiver les agents possibles, à leur faire croire que l'écologie pourrait être quelque chose qui pourrait remplacer les religions traditionnelles. Pensez à ce culte de la terre à laquelle on a donné, après James Lovelock, qui entendait ça dans un autre sens d'ailleurs, le nom de Gaïa. On lui a redonné le nom de Gaïa, puisqu'il s'agit d'une divinité grecque fort ancienne, dont il est question chez Hésiode et chez d'autres. Bon. Alors, il faudra se garder aussi de, disons, d'un enthousiasme excessif. Alors j'ai voulu, c'est une particularité de cette année, j'ai voulu donner la parole à des gens plutôt jeunes et à respecter eh bien, une stricte parité des sexes. Il y aura autant d'oratrices que d'orateurs. Bon, j'ai demandé à quelqu'un qui est professeur de chimie, pour ne rien vous cacher, professeur de chimie, mais qui ne se contente pas d'additionner ou de dissoudre des molécules. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense non seulement sa matière, mais les problèmes d'aujourd'hui. Donc je voudrais que l'on essaye de garder un petit peu la tête froide, sans se masquer sur les dangers, mais sans non plus verser dans un ton apocalyptique, ni en philosophie, ni dans d'autres domaines. Donc, on va essayer de penser cela de manière un peu nuancée.
Ce qui frappe dans ce programme, c'est qu'il y a une petite trentaine de séances proposées. Et effectivement, c'est la grande diversité des intervenants qui viennent pour la plupart de l'extérieur,
oui.
Qui appartiennent à une jeune génération très souvent. J'imagine que c'est un gros travail de repérer tous ces interlocuteurs.
Oui, effectivement, ça m'a demandé du temps. J'espère qu'ils se montreront à la hauteur de ce que j'attends d'eux. Mais j'ai voulu, ouvrir un petit peu les fenêtres. J'ai voulu courir le risque, si je puis dire, de demander à des gens extérieurs au circuit académique. Enfin, on aura au moins deux académiciens, mais le gros des troupes, si je puis dire, ce seront des universitaires, des gens compétents, hein, pas n'importe qui. Des gens qui, parfois, feront leurs premières armes devant une académie. Je crois que notre Benjamin doit avoir 30 ans. Notre Nestor sera probablement Jean-Claire, si je ne me trompe pas, de l'Académie française, un homme non seulement délicieux, mais d'une érudition assez prodigieuse et d'une pensée profonde. Donc on aura un petit peu le spectre des âges et puis le spectre des sexes. Enfin, le spectre des sexes est plus simple. Je n'en ai trouvé que deux jusqu'à présent, mais ils seront représentés à égalité.
Alors, sauver, cela suppose qu'il peut y avoir une forme de danger. Aujourd'hui, quels sont les dangers que vous liez à cette notion dans le monde contemporain ?
Il s'agira de faire l'inventaire des dangers sans tomber, je l'ai déjà dit, dans la lamentation. Alors, les dangers, ils sont, je ne sais pas si ça sera dit au cours de l'année, mais ils sont quand même essentiellement intérieurs. D'une part, négativement, je crois qu'il serait non seulement contre-productif, mais mauvais moralement et, pour sortir ma carte maîtresse, simplement bête, stupide, de tout mettre sur le dos de circonstances extérieures. Alors, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute aux Américains, pourquoi pas à Voltaire ou à Rousseau, pendant qu'on y est. Bon. Mais les dangers intérieurs, c'est l'idée que nous ne sommes finalement menacés que d'une sorte de perte de confiance en nous-mêmes, d'une sorte de désenchantement devant ce qui nous a fait, devant les principes sur lesquels notre civilisation s'est fondée. Alors nous aurons pas mal de d'occasion pour essayer d'identifier ces dangers intérieurs. C'est peut-être d'ailleurs la première des mesures à prendre avant de se demander comment les contrer, comment faire revivre ce qui nous a fait vivre. Je suis toujours particulièrement exaspéré, disons, par les optimistes maladifs. Je me souviens d'un exposé que nous avons eu il y a quelques années, je ne sais plus trop qui l'a fait et dans quelles circonstances. On avait demandé à l'orateur comment se fait-il que les Français n'aient pas le moral. Or, l'orateur avait fait simplement un catalogue de ce qui va bien. Il nous avait dit, nous sommes plus nombreux, nous vivons plus longtemps, beaucoup de maladies ont été jugulées, tout baigne. Ce n'était pas la question. Même à supposer que ce soit vrai, et les exemples qu'il a donnés étaient tout à fait authentiques. Hein. C'est vrai que l'espérance de vie a augmenté. C'est vrai que certaines injustices fondamentales sont en voie de disparition, sinon totalement disparues. Je pense que l'inégalité entre les sexes, par exemple, a beaucoup reculé. Et que l'égalité a fait beaucoup de progrès, des choses de ce genre-là. Mais la question de savoir comment se fait-il que nous continuions à râler. Est-ce que c'est simplement notre tempérament de Gaulois irréductible ? Comment se fait-il que non seulement en France, mais ailleurs, là où il n'y a pas que des Gaulois, mais des Germains, des Ibères, des Italiotes, des Bretons, etc. Comment se fait-il que l'on ait la même impression ? Alors là, nous sommes restés sur notre faim. Je voudrais que, un petit peu à la marge quand même, l'année qui va s'ouvrir contribue à répondre, à donner une réponse à cette question.
L'une des questions, c'est que faut-il sauver ? Qu'est-ce qu'il est important de sauver ? Parce qu'on ne peut peut-être pas tout sauver, et ce n'est peut-être pas une bonne idée. Vous le posez par exemple, ce problème dans l'intervention sur les musées, faut-il tout conserver, par exemple ?
Oui, c'est une bonne question. Enfin, j'espère que c'est une bonne question, puisque c'est une de mes questions, donc je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis, même si les intellectuels français ont un talent extraordinaire dans ce genre de sport. Oui, effectivement, si sauver veut dire simplement business as usual, si sauver veut dire simplement on continue, ça ne m'intéresserait pas prodigieusement. En revanche, si l'on se demande est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont pourries et qu'il faudrait abandonner pour garder ce qui peut apparaître comme l'essentiel, comme le décisif, comme l'important, là, ça me semble une meilleure question. Je ne résiste pas au plaisir de raconter comment j'ai compris ce que signifiait positivement le conservatisme. C'est lorsqu'il y a quelques années, j'ai dû être opéré de l'intestin, on m'a retiré 30 cm de boyau, et à l'issue de l'opération, le chirurgien qui m'avait opéré m'a dit « Oui, j'aurais pu en retirer davantage, mais enfin, j'ai une conception conservatrice de la chirurgie. » Et j'ai appris qu'il s'agissait d'un terme technique, et ça voulait dire « on ne retire que ce qui est vraiment pourri, ce qui pourrait se détériorer, on lui laisse sa chance. » Alors ça me semble tout à fait
comme
intéressant.
Comme dans le patrimoine, souvent.
Oui, on peut se demander justement, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas mieux oublier, un petit peu comme responsables d'un opéra font parfois des coupes sombres dans le répertoire. Il y a des choses qui ne parlent plus tellement au public, mais il y en a d'autres, en revanche, qu'il faut garder comme la prunelle de ses yeux. Alors, sauver, ça peut être aussi, justement, savoir distinguer. Et l'exemple des musées que vous avez cité, et je compte beaucoup sur l'oratrice, en l'occurrence, qui va traiter le sujet, Un musée est quand même une chose bizarre. Il y a un petit essai de Paul Valéry dans lequel il remarque qu'un musée, c'est avant tout un cimetière. C'est avant tout un endroit où l'on a commencé par arracher des œuvres à leur contexte initial. Je sais pas, on a retiré une fresque, techniquement c'est pas facile, enfin on y arrive, on a retiré une fresque des murs d'une église, on a pris un fétiche africain ou un fétiche arumbaya, on l'a pris à la tribu qui l'avait produit et on le met dans un musée où il devient un objet esthétique, ce qu'il n'avait jamais été. Bon. Et puis, comme dans un cimetière coexistent des morts de toutes les époques, eh bien là aussi, on a une salle consacrée à l'art égyptien, et puis ensuite à l'art grec, et puis ensuite à l'art de la Renaissance, du Moyen-Âge, à l'art contemporain, tout ce que l'on veut. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Enfin, est-ce qu'on ne commence pas par chloroformer sérieusement les œuvres d'art avant de les mettre sur la table d'opération où elles vont pouvoir être l'objet de la jouissance du spectateur. Donc il faudra se poser tout ce genre de problème. Est-ce que sauver, c'est simplement conserver ? Est-ce que c'est simplement mettre à part, arracher à son origine pour placer dans une vitrine ou quelque chose comme ça ? Alors bien entendu, le problème du musée peut être transposé au domaine politique, au domaine social, à d'autres domaines.
Oui, par exemple, vous mettez en avant, en tout cas le programme fait émerger quelques figures de penseurs, pour la plupart contemporains. D'ailleurs, vous avez cité Heidegger, il y a aussi Étienne Gilson, il y a Philippe Muret, il y a ce penseur britannique qui est mort en 2020, Roger Scruton. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces personnages qui appartiennent plutôt au mouvement conservateur, justement, ceux qui veulent
précisément parce que le conservatisme, s'il a un sens et une valeur, consister à sauvegarder ce qui mérite de l'être. Alors j'ai voulu, donner la parole, si je puis dire, à des orateurs malheureusement disparus. Vous avez mentionné Sir Roger, que j'aimais beaucoup. Enfin, c'était un original, tout à fait, un gentleman farmer. Il vivait effectivement dans une ferme, intellectuel de haute volée. Bon, Philippe Muret, je n'ai jamais eu la chance de le connaître. Étienne Gilson non plus. Lorsqu'il est mort, j'étais quand même encore très jeune, et puis je n'ai jamais osé, un petit peu aussi pour Heidegger, j'aurais pu avoir l'occasion de le rencontrer, mais enfin, qui suis-je et qui étais-je, à plus forte raison, quand j'avais une vingtaine d'années, pour voler à des personnages de cette dimension, ne fût-ce qu'une heure de leur temps. Bon, donc je me suis donc refusé à commettre ce larcin chronologique. Bon. Mais il me semble qu'aussi bien Gilson, qui a écrit un texte qui s'appelle « Les terreurs de l'an 2000 », si je ne me trompe, il l'a écrit en anglais, mais j'en suis pas sûr, parce qu'il était devenu quasiment bilingue à force d'enseigner à Toronto en langue anglaise et d'écrire en langue anglaise. Bon, Heidegger, lui, je l'ai déjà mentionné, puisque j'ai parlé de cette phrase mystérieuse, enfin, énigmatique, « Seul un dieu peut nous sauver ». Philippe Muret, représente, si l'on veut, une tentation de ronchonnage. Mais il n'y a pas que ça chez lui, justement. D'abord, il y a un humour absolument extraordinaire. Enfin, c'est souvent à se tordre quand on regarde les formules qu'il frappait, tout en parodiant d'ailleurs des formules habituelles, mais en modifiant simplement une lettre ou une consonne, et ça donnait des choses absolument réjouissantes. Alors tous ces gens-là, pourraient peut-être nous aider à penser. Sir Roger était un correspondant de notre académie, et je ne suis pas totalement étranger d'ailleurs au fait qu'on l'ait choisi comme correspondant peu de temps avant sa disparition. Et ça me plairait de l'entendre à travers la voix d'une oratrice qui l'a très bien connue et qui en est presque devenue une spécialiste, ça me plairait de les faire parler, si je puis dire. Enfin, nous avons les moyens de les faire parler. Bon. Post-mortem, de manière posthume. Donc j'ai demandé à des gens qui non seulement connaissent bien ces penseurs, celui qui parlera d'Étienne Gilson a écrit toute une biographie de Gilson, extraordinairement documentée. Enfin, il a consulté des correspondances aux quatre coins de la planète. Et donc, j'attends beaucoup là aussi de ce que ces grandes voix, maintenant disparues, pourront nous apporter.
Il y aura aussi une place pour ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de salut et qui le remplacent par d'autres valeurs.
Oui.
Vous mettez par exemple en avant le fait que la santé a remplacé le salut.
Alors c'est une formule que j'ai trouvée dans ce qui est peut-être le meilleur livre de Michel Foucault, un livre qu'il a écrit après l'histoire de la folie, qui l'a rendu célèbre quasiment du jour au lendemain, un livre qui s'appelle « Naissance de la clinique ». Il cite un médecin espagnol, mais athée et républicain, donc qui avait préféré faire sa carrière en France. C'était au 19e siècle, dans les années 70-80, si ma mémoire est bonne, un gars qui s'appelait Guardia, et qui a écrit cette phrase « De nos jours, la santé a remplacé le salut ». Alors bon, il s'en réjouissait, bien entendu, qu'en bon athée et républicain qu'il était, mais cette phrase me semble intéressante. On entend effectivement des gens qui disent « maintenant que l'espérance de vie a augmenté, les gens n'ont plus peur de la mort, même comme s'ils avaient cessé de mourir. » Enfin bon, et donc ça expliquerait le recul des religions. Alors je m'interroge sur la légitimité de ce diagnostic, d'abord parce que est-ce qu'il y a-t-il un recul des religions ? Oui, il y a un recul des religions officielles, des religions organisées, mais regardez toute la religiosité qui refait surface, par exemple dans le mouvement écologique, comme on en a parlé tout à l'heure. Bon. Alors il faudra se demander ce qu'il en est. Alors j'ai demandé pour ce faire à une dame qui est médecin, mais qui n'est pas que médecin, qui est également, disons, administratrice des problèmes de santé, de réfléchir. Puisque bon, c'est quelqu'un qui en plus pense, enfin, qui réfléchit sur ce qu'elle fait, ben, je lui ai demandé de nous parler de ce thème, de demander est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire, à partir de quand on s'est mis à penser cela, vers quoi ça débouche, enfin, cette espèce de substitution de l'une à l'autre entre deux réalités qui finalement n'ont pas grand-chose à voir quand on regarde les choses de plus près.
Alors, de nombreux thèmes d'actualité seront évoqués. Celui de l'homme providentiel par Éric Roussel en cette année présidentielle. Ce sera certainement très intéressant de l'écouter. Celui de la mort violente aussi. Finalement, vous nous avez dit de quelles questions vous étiez parti et où est-ce que vous voulez nous emmener ?
Ah, mais écoutez, alors là, d'abord sur l'homme providentiel, j'ai déjà cité l'international, hein, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Donc, est-ce que les Césars et les tribuns peuvent apparaître comme des hommes providentiels ? Bon. On a parlé d'homme providentiel à propos de Gaulle, dont Éric Roussel est un spécialiste tout à fait éminent et reconnu. Mais bon, on a pu penser cela à propos de figures historiques beaucoup moins sympathiques. Bon. Mais pour revenir à votre question, sans trop avoir l'air de m'y dérober, nous verrons. Si je savais avant l'année où je voulais exactement en venir, je n'aurais pas besoin de convoquer 30 autres orateurs que ma petite personne. J'aurais écrit un livre, et puis voilà. Donc, je saurai ça en décembre 2022, et nous verrons.
Eh bien, nous allons nous laisser surprendre, nous aussi, avec vous, En suivant cette année ces séances ordinaires de l'Académie des sciences morales et politiques autour de ce thème d'année sauvée, point d'interrogation. Et donc c'est tous les lundis à 15h et ces séances sont également retransmises sur Canal Académie. À bientôt.
Merci infiniment. Thank you.